Georges Courteline, le fils. Un jour que je travaillais seul, mon domestique vint entr'ouvrir ma porte et m'annoncer un nom qui me fit tressaillir. Ce nom, c'était celui du fils. Je donnai l'ordre de le faire entrer et j'allai au-devant du jeune homme en lui tendant une main qu'il parut ne pas voir. C'était un garçon pâle et frêle, portant à peine ses 18 ans, et en qui je retrouvais tout de suite l'image vivante de la mère à l'époque où je l'avais connue. L'expression singulière de ses traits me frappa en même temps que l'air de grande gêne avec lequel il se présentait, et la première idée qui me vint fut qu'il venait me demander un service sans savoir par quel bout s'y prendre. Je lui dis: « Assieds-toi, mon cher, tu es gentil d'être venu. » Puis, comme il demeurait debout, « Voyons, repris-je, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un air solennel. Je parie que tu as fait des bêtises. Tu t'es fait nettoyer aux cartes, n'est-ce pas? Et tu viens t'adresser à moi pour que je te tire d'affaire. Eh bien, tu as bien fait, parbleu. Comment te faut-il? Combien? 15 louis? 20 louis? Quoi ?» Mais il m'interrompit d'un geste. « Non, 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 merci, ce n'est pas cela. » Je continuai. « Quoi alors, c'est une femme? Parle, faut pas te gêner avec moi. » Cette fois encore, il y eut un hochement de tête. Je commençai à m'étonner, je le regardais fixement. À la fin, il se décida, s'assit et la tête baissée, avec un regard qui fuyait le mien. « Monsieur, me dit-il, je viens accomplir auprès de vous une démarche qui peut-être vous paraîtra bizarre, dans laquelle moi-même j'ai hésité longtemps, mais que je crois cependant de mon devoir de ne pas retarder davantage. C'est de ma mère qu'il s'agit. » Étonné de cette conclusion inattendue, je m'inclinai sans répondre et j'attendis, avec le plus vif intérêt, la fin de ce petit discours, évidemment préparé dans la rue. Il continua, parlant d'une voix à demi éteinte, et que son émotion visible secouait de hoquet par instant. Tour à tour, il rappela sa toute jeune enfance, la mort de son père, et tout de suite, son entrée précipitée dans le pensionnat de Savenois, où il devait rester 10 ans, reclus et presque abandonné, dans une mélancolie que le temps des vacances et les visites de la mer égayaient de rares coups de soleil. Tout un poème d'enfance sensible et délaissé, que je connaissais aussi bien que lui. J'écoutais toujours, silencieux, intrigué, me demandant où diable il voulait en venir, ouvrant des yeux de plus en plus larges à mesure qu'il entrait plus avant dans le récit. Se montrait grand garçon déjà et parlait des rêveries étranges qu'il obsédait pendant le silence et le recueillement des heures d'étude. Brusquement, il s'interrompit, étouffa dans sa main un léger accent de toux, puis reprit de sa même voix blanche. Quand enfin les études achevées, je pus rentrer à la maison, à la première chose qui me frappa, fut le changement considérable survenu en quelques mois de temps, aussi bien sur le visage même que dans le caractère de ma mère. Lors de mon dernier congé, je l'avais quittée gaie, jolie, presque jeune femme. Je la retrouvais presque vieille, les tempes blanches, avec une expression de tristesse qui me donna une secousse au cœur, car j'ai toujours eu pour ma mère une véritable adoration. Deux ou trois fois, je la surpris à pleurer. Je l'interrogeai anxieusement. Je n'obtins d'elle que des réponses vagues et des sourires qui m'attristèssent plus encore que ne m'avaient attristé ses larmes. Alors, la tête me travailla. Je cherchais, je voulus une explication. Et peu à peu, des rapprochements s'optèrent, opérèrent. Des coïncidences singulières, des détails déjà effacé à demi. Vous étiez mêlé, monsieur, vous dont la présence s'accouplait à mes plus lointains souvenirs. en qui je n'avais jamais vu jusqu'à ce jour que l'ami le plus ancien et le plus cher de ma famille, et dont la subite disparition, rapprochée de deux douleurs que rien ne m'expliquait, éveillait brusquement en moi une idée tellement atroce que mon premier mouvement fut de m'en aller jeter en pleurant aux pieds de celle que mon soupçon avait flétrie. Il était devenu très pâle, les lèvres blanches comme de la cire, les paupières agitées d'un clignotement nerveux. Il continua cependant. « Ah, monsieur, si jamais un cauchemar abominable a hanté le sa pensée d'un homme et torturé sa fierté, c'est bien celui contre lequel je dus me débattre avec toute l'énergie de mon désespoir et sentir s'enfoncer plus cruellement en moi à chaque effort que je tentais pour le combattre, le terrasser, l'anéantir sous mes talons. Car j'eus le courage de le regarder face à face et de lutter corps à corps avec lui. Hélas, monsieur, épargnez-moi l'extrême douleur d'aller plus loin. Vous savez, aussi bien que moi-même, quel résultat devait atteindre toutes ces luttes et devant quelles évidences je devais enfin démarrer, anéanti, désarmé, brisé par le plus effroyable chagrin qui puisse frapper un honnête homme. Monsieur, je n'ai pas à disculper ma mère. C'est à vous que je laisse ce soin. Mais il ne m'appartient pas de vous demander ici compte de sa conduite, tout au moins, puis-je vous demander compte de son bonheur. Et c'est pourquoi je viens vous sommer de me dire, dès l'instant que vous avez été l'amant de ma mère, pour quelle cause vous avez aujourd'hui cessé de l'être. Je vous disais donc en mon sang que cette histoire était à peine vraisemblable. Le moment me paraît venu de le redire. Tout d'abord, je ne compris pas, en démêlant péniblement au fond de ce fatras tout à la fois touchant, maladroit et prétentieux, je ne sais quel héroïsme vague dont l'excessif me déroutait. Mais brusquement, je compris tout, et alors je restais comme idiotisé, l'œil écarquillé et la bouche bée, devant le monstrueux dénouement de ce fils, étouffant toute la révolte de son orgueil pour reconquérir à sa mère l'amant parti qu'elle pleurait. Enfin, je me remis un peu, et doucement, « Mon cher enfant, lui dis-je, ton extrême jeunesse et aussi le bon sentiment qui te font agir, non seulement excusent, mais rendent presque admirable l'audace inouïe de ta démarche. Cependant, je t'interromprai immédiatement. Je n'ai jamais été l'amant de ta mère. Je t'en donne ma parole d'honneur. Je l'aime profondément, c'est vrai, parce que c'est une femme pleine d'esprit et de cœur, et dont j'ai pu en mille occasions apprécier le très grand mérite, mais sois sûr que je n'ai jamais été pour elle que son ami le plus sincère et le plus dévoué. » Alors il eut un petit sourire dont l'amertume me fit mal. « Oui, dit-il simplement, je le sais, je m'attendais à cette réponse, la seule que votre compassion pût vous dicter. Mais vous pensez bien, n'est-ce pas, que je ne serais pas allé m'aventurer dans une démarche semblable sur la foi de pure supposition. Soyez tranquille, si j'agis comme je le fais, c'est parce que je n'ai même plus, hélas, la triste consolation du doute. Dois-je vous montrer les lettres signées de vous que j'ai prises cette nuit à ma mère ?» Je n'avais plus rien à répondre. Je dis « C'est bien !» et je m'inclinai dans l'attente d'une conclusion. Lui garda un instant le silence, puis comme je persistais à me taire, « Eh bien, monsieur, dit-il, voici. Quand on a commis la malhonnêteté de déshonorer une femme de bien, on a du moins cette probité de ne pas faire son désespoir après avoir causé sa chute et de ne pas l'abandonner lâchement dans son isolement et dans ses remords. Mais que vous a donc fait ma mère pour que vous la trahissiez? Quel reproche pouvez-vous élever contre elle? Qu'a-t-elle fait d'autre que de tout vous sacrifier, de vous aimer plus que tout et mieux que tout? Ah, tenez, ce que vous faites, là, c'est indigne, c'est une mauvaise action, très mauvaise action, dont vous aurez à vous repentir toute votre vie. Une violente émotion le gagnait. Ces paroles tombaient de sa bouche par saccades, tandis que ses yeux peu à peu se gonflaient de larmes contenues. Et brusquement, il éclata en sanglots, criant « Mais ma mère est une honnête femme ! Ma mère est une honnête femme !» J'étais bouleversé. Je m'exclamais « Et parbleu, je le sais bien que ta mère est une honnête femme !» Alors, fit-il, subitement calmé, pourquoi agissez-vous ainsi, si ce n'est parce que vous-même vous êtes un malhonnête homme? Ah, mais m'écriai-je, pardon! Voici qu'État vient un peu raide, et vous êtes heureux de n'être qu'un enfant. Qu'est-ce que vous venez réclamer après tout? Vous arrivez dans l'intention de me reprendre par la main? Et de me remettre ramené, repentant et contrit, entre les bras de votre mère. En vérité, vous ne paraissez pas vous douter que, si vous aviez seulement 2 ans de plus, votre conduite serait tout simplement odieuse. Eh bien, parfaitement, c'est vrai, j'ai été l'amant de votre mère. Je l'ai été pendant 16 ans. En quoi je ne vous apprends rien, puisque vous avez poussé l'indiscrétion jusqu'à fouiller dans ses papiers? Et si aujourd'hui je ne le suis plus, c'est parce que j'ai, pour ne plus l'être, des raisons, dont je suis seul juge et dont vous devriez d'ailleurs être le dernier à vous mêler. En voilà, c'est à la fin. Et là-dessus, ne le voilà-t-il pas, qui se lève et s'avance sur moi, la main haute. Heureusement, je vis le mouvement, j'arrêtai le soufflet au passage, et je saisis mon gamin au poignet, en me retenant de toute ma raison pour ne pas lui dire les oreilles d'importance. Et il criait « Oui, vous êtes un lâche, vous êtes un misérable et un malhonnête homme, et je vous souffletterai en pleine rue si vous refusez de vous battre avec moi. » « Ah, dis-je alors, c'est très bien, c'est un duel que vous voulez, à ce que je vois. Eh bien, mais mon cher, battons-nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Et en effet, nous nous battîmes. Nous nous battîmes le surlendemain dans les bois de Montmorency. Ce fut une chose ridicule et à la fois presque tragique. Me voyez-vous en face de cet enfant, à peine fait, qui présentait à mon épée une poitrine et des bras de fillette? Ah, je m'en souviendrai de celle-là, sacristi. Je tremblais comme une feuille au vent. Pensez donc, avec cette espèce d'enragé qui tapait à droite et à gauche et se fendait sur mon fer comme un fou. C'est un miracle si j'ai réussi à ne pas le tuer. Enfin, tout finit par le mieux. Et je lui fis au doigt une piqûre qui mit fin à ce combat grotesque. Pauvre bon petit être. Si je lui avais fait le moindre mal, je crois que je le pleurerais encore.